bien, ben, c'est le dernier cours. Tout arrive. Et évidemment, il aura un visage un peu différent des précédents, puisque vous voyez, nous nous orientons maintenant vers l'orthographe et son histoire. Mais évidemment, je vais essayer d'appuyer sur les points qui ont un lien avec l'étymologie. Vous avez du mal à lire, hein, madame. Alors, parler, ce n'est pas communiquer, c'est assujettir. C'est tiré du discours inaugural de Roland Barthes quand il a pris sa chaire au Collège de France. Alors, une fois que je vous aurai parlé de l'étymologie et de l'orthographe, je ne vous laisserai pas partir sans une bibliographie sérieuse. Si vous voulez continuer vos recherches, continuer à apprendre des choses sur la langue, sur les langues. Et j'ai essayé de faire une bibliographie éclectique qui va du que sais-je au dictionnaire, en passant par des ouvrages conséquents. Voilà. Je vous dirai pour chaque titre le niveau de difficulté ou de complexité. Voilà. Alors, je me suis dit que pour ce dernier cours, il ne fallait pas que je zappe sur les rites qui sont tellement plaisants, parce qu'on se dit ça a commencé, mais encore, c'est pas trop difficile. La lecture, un peu de lecture, ça ne peut pas faire de mal, comme dit Guillaume Gallienne. Et j'ai choisi comme dernière lecture un extrait du dernier roman de Jean-Marie Blas de Robles, qui s'appelle « L'île du point Nemo ». C'est une histoire absolument extravagante, une espèce de voyage à la Jules Verne, à qui il rend hommage, et qui est aussi un voyage extraordinaire dans la littérature. Et tous les personnages portent des noms de grands héros littéraires. À un moment donné, les voilà arrivés dans un sous-marin. Vous voyez les allusions. Et ce sous-marin est meublé et décoré comme un palace. Les voici dans une bibliothèque. Plus haut dans les étages, la révérende mère vient d'introduire ses hôtes dans une salle tapissée de livres, 12 000 reliures qui ressemblent à des alignements de boîtes de cigares rehaussées d'or et de couleurs. Une bibliothèque ! S'écrie Lady Macrae, les joues en feu. D'autres exclamations fusent. Les mains se tendent, sortent des ouvrages au hasard, les ouvrent avec cérémonie. Quel plaisir, dit Holmes. Cela doit faire plus de 40 ans que je n'en ai pas tenu un entre les mains. Et composé au marbre. Mais d'où les sortez-vous ? Nous les fabriquons, répond Martirio. Il suffit d'une presse et de quelques jeux de fonte. Je vous les ferai voir un peu plus tard, si cela vous intéresse. Canterelle n'a pu s'empêcher lui aussi de consulter un exemplaire, d'en toucher le papier avec ferveur, de le humer comme un vieux Bourgogne. Alors que les autres continuent à s'extasier, ils marchent le long des rayonnages. Le grand Robert, les Alain Rey, le Furetière, le dictionnaire de l'Académie française, le Littré, le Trévoux, le Dictionary of the English Language, je n'ai jamais fait l'anglais, de Samuel Johnson, le Godefroy, le Deutsches Wörterbuch, des frères Grimm, le Dizionario della Lingua Italiana, là ça va mieux, le Niccolo Tomaseo, le Webster, le Duc Ange, le Grand Larousse universel du XIXe siècle, le Bailly, le Gaffiot, le D'Arenberg et Saint-Lieu. Les armes de pointe de la langue, tout parler et tout siècle confondu, de véritables trésors reliés solidement, mais imprimés sans apparat et avec la même police de caractère. « Vous avez en rayon littérature » demanda-t-il troublé. « Non, » dit Martirio. Cette décision néanmoins n'a pas été facile à prendre. Conserver le Don Quichotte, le Pantagruel, ou je ne sais quelle œuvre soi-disant définitive, les Essais de Montaigne, l'Âne d'or, Bouvard et Pécuchet, si l'on y réfléchit un peu, tout livre est l'anagramme d'un autre, peut-être même de plusieurs. Il n'appartient qu'au lexique d'être celui de tous les autres. C'est ce qui a guidé notre choix. Nous ne copions que des dictionnaires dans les langues pratiquées ou disparues, avec l'assurance qu'ils contiennent à chaque fois l'infini de toute littérature envisageable. « Et qu'en faites-vous ? » intervient Sanglard. « Qui peut bien lire ces dictionnaires aussi remarquables soient-ils ? » Nous les confions à l'International de Colportage et à d'autres antennes qui se chargent de les oublier sur un banc de métro, dans un camp de réfugiés, la salle d'attente d'un hôpital. Vous n'imaginez pas combien de fois ils sont consultés. Ou volés, dit Miss Charrington avec une grimace incrédule. Jamais, je vous l'assure. Il est bien connu de la police que les cambrioleurs n'emportent, hélas, ni les outils, ni les livres. Quand ces ouvrages disparaissent des endroits où nous les avons laissés, nous nous en réjouissons, c'est qu'une bibliothèque a été semée. Voilà, alors, encore un préalable. La dernière fois, nous avons évoqué la tour de Babel. Et spontanément, je vous ai dit, Babel, Babil. Et comme j'avais dit ça spontanément et que je me méfie parfois de ces idées qui vous parasitent, en revenant, je me suis un peu renseignée sur l'origine de ce mot, qui a bien sûr donné Babylone. Alors évidemment, on peut penser à l'onomatopée Babil, blabla, déblatéré, etc. Mais en fait, il semble que le mot viendrait de l'acadien, qui est une forme de vieux grec, de grec très très archaïque, bab, cette forme-là ayant été sûrement héritée elle-même. Ça viendrait de Babylum, avec un A long, ou de Bab, L. Voilà comment je l'ai trouvé écrit. Et les deux signifieraient porte, Bab, porte de Dieu. Mais il y a un autre mot qui est hébreu, qui est Balal, et qui signifie, c'est un adjectif, qui signifie mélangé, confus, brouillé. Et on a longtemps pensé que Babel venait de Balal, puisque Dieu, dans sa colère de voir des hommes essayer de monter jusqu'au ciel par cette construction, a brouillé la langue adamique originelle et les a dispersés sur la terre avec des idiomes multiples. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Et de fil en aiguille, je me suis aussi intéressée à la symbolique. Donc je suis allée voir dans le dictionnaire des symboles. Et ce qui est passionnant, c'est que l'interprétation de ce mythe peut être radical, peut donner des éléments radicalement opposés. La première évidence, c'est que Dieu donne des langues différentes en guise de punition, ce qui signifierait que un projet désormais un projet mené par plusieurs personnes, chacune ayant son propre jargon, est voué à l'échec. Voilà. On peut penser aussi à l'opposé que ce qu'a fait Dieu a donné une chance à l'humanité. Là, je parle sous le couvert de ce que dit le philosophe François Marty. La diversité est plus riche que l'uniformité. La multiplicité des langues crée même les conditions de l'altérité et de la biodiversité des hommes, ce qui oblige les citadins, par exemple, à se civiliser. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Babel, de l'Ancien Testament, est mise en perspective avec Pentecôte dans le Nouveau Testament. Babel a brisé et dispersé, et le don des langues le jour de Pentecôte est une mission d'union, de renaissance et de salvation, puisque c'est le Christ qui distribue ces langues de feu. Voilà.
Merci.
Voilà tout ce que j'ai trouvé sur mon dictionnaire des symboles. Alors, nous allons maintenant nous lancer dans étymologie et orthographe. Et donc j'ai divisé l'approche en deux volets. Donc d'abord, petit A, que j'ai intitulé approche parce que je peux mettre tout ce que je veux dedans. Voilà, d'abord, nous allons voir en premièrement que étymologie et orthographe, c'est un couple infernal. Si tant est que ceci ne soit pas un pléonasme, je ne sais pas. Voilà, étymologie et orthographe aurait pu être un texte, un titre d'une fable de La Fontaine. Le loup et l'agneau, la cigale et la fourmi, hein, les deux ne vont pas toujours ensemble. Alors, régulièrement, le Conseil supérieur de la langue française tente de réformer l'orthographe en simplifiant des graphies, par exemple, avec H, avec double consonne, avec doubles écritures. Vous savez, par exemple, un lys, ça peut s'écrire avec Y ou avec I. Vous pouvez écrire une à l'aise, comme ceci ou comme cela. Bref, on essaie de simplifier et aussi régulièrement, les projets avortent. On a compté de 1901 à 1990 10 tentatives de réforme qui n'ont pas éclos véritablement. Et c'est toujours à cause d'une tempête de protestation, parce que il semble que les Français perdent leur sang-froid et même leur bon sens dès qu'on ose modifier ne serait-ce qu'un petit nombre d'irrégularités. Et souvent, ils avancent l'argument que l'étymologie ne sera plus identifiable, ne sera plus perceptible. Mais entre nous, hein, est-ce que l'étymologie souffrirait beaucoup si, à côté de souffler, on avait la permission d'écrire aussi boursouffler avec deux F, hein, parce qu'il y a quand même un rapprochement de sens. Bon, est-ce qu'on serait très malheureux si on avait le droit d'écrire dentelière et interpeller, puisque déjà on dit interpeller alors qu'on devrait dire interpeller. Voilà, des choses de bon sens qui n'arrivent pas à être vraiment décidées. Et pourtant, je me permets de vous lire ce que ce Conseil de la langue française spécifie en toutes lettres. Ces propositions ne sauraient être imposées aux usagers adultes. Les graphies anciennes seront considérées comme variantes correctes jusqu'à ce que les nouvelles dominent dans l'usage. C'est-à-dire jusqu'à ce que les usagers adultes aient fini par mourir et arrêter de nous embêter. Voilà. Alors, cet argument avancé de la pertinence d'une orthographe en lien avec son étymologie, eh bien, il y a un esprit facétieux qui s'est amusé à le mettre à bas. C'est Nina Katash, dont l'une d'entre vous m'a parlé voilà 15 jours, qui a écrit « Les délires de l'orthographe ». C'est un livre qui fait un bien fou, vous ne pouvez pas savoir. Voilà, « Les délires de l'orthographe ». Alors, il date de 1989 et il n'est pas facile à trouver, mais peut-être à la médiathèque ou je pense que vous le trouverez si ça vous intéresse. Alors, justement, je vais maintenant prendre quelques exemples pour vous montrer que l'étymologie a bon dos. Hein. C'est pour ça que j'ai intitulé le deuxième chapitre « L'étymologie comme bouc émissaire ». Alors, voyons de près cet aspect-là. D'abord, on va voir l'importance des images mentales. Donc, orthographe, que je vais écrire orte. Hein. Voilà, orthographe et image mentale. Le problème, par exemple, de l'accent circonflexe. Quand le faut-il? Quand ne le faut-il pas? Certes, on sait que c'est un signe distinctif. Le mur est un fruit mûr. Voilà, l'accent circonflexe fait la différence entre le nom et l'adjectif. Et en même temps, quand on dit un fruit mûr ou les fruits sont mûrs, on se doute bien qu'il ne s'agit pas de béton armé. Est-il vraiment indispensable? Pareil pour l'accent circonflexe de l'abîme. Certes, abîme vient de abyssus, qui s'est peu à peu transformé en abysmus. Et vous savez qu'un circonflexe est souvent la trace d'un S, forêt, forestier, hôpital, hospitalier. C'est pareil pour le fait de la toiture, voilà, avec accent circonflexe, qui vient de fastigium, encore une trace de S, et l'accent de il vient de insula, qui a donné isolé, hein, c'est-à-dire être comme sur une île. Alors, tout cela peut se concevoir, mais c'est Henriette Walter, pourtant Dieu sait si elle est pointue en matière d'étymologie, elle nous dit ceci, « Sans accent circonflexe, le fait paraîtrait moins haut, l'abîme moins profond et l'île moins isolée. » Voilà. Et je pense que, en effet, il y a quelque chose de cet ordre qui peut se jouer. Alors, il y a aussi l'orthographe qui est due à un avatar d'écriture et non pas à une étymologie. Hein, voilà. Alors, je vais mettre étymologie, étyme et avatar d'écriture. Alors, chaque fois, je ne vous donne qu'un exemple, mais il y en aurait à l'infini. Nicou, il y a des places devant. Alors, le mot « nez », par exemple. Le « nez », avec un « z ». D'où vient ce « z » ? Alors, en fait, le mot « nez » vient de « nasum ». Et très logiquement, Il a été écrit longtemps, enfin on le retrouve d'ailleurs dans nasal, naso, il a été écrit avec un S. Mais il s'est agi qu'une fois, ou une fois répété, hein, on ait prolongé le S, on l'ait mal formé, pour que le Z finisse par s'imposer. Voyez, c'est ahurissant, c'est du délire. Et voilà comment on se trimballe avec un Z au bout du nez.
On ne sait pas. Excusez-moi. Vous voulez, j'ai entendu dire que c'était un nom viking, un mot viking.
Alors,
et
moi, je...
dire cap, et c'est pour ça qu'on a le nez de Jouvry. Vous voyez, parce que...
D'accord.
Oui, voilà. Alors,
moi, là, j'ai lu ça dans Henriette Walter.
Oui, moi, j'ai pu une question sur la Normandie.
D'accord.
Et tu sais qu'on avait gardé les mots, on avait les mots viking, dont le mot nez qui veut dire cap.
D'accord. Et là, et ça justifie le Z.
Voilà.
Parce que ça vient de chez les vikings. Voilà. Je vais chercher là. Je ne pourrai pas vous donner la réponse
prochaine fois.
D'accord.
Ça s'appelle Miss.
Bon. Donc, vous voyez, même ce que je vous dis, ça prête à...
Je ne sais pas.
Ça prête à contestation. Mais c'est très bien. Alors, encore une variante. La confusion dans les origines. Bon, je vais enlever Nina Katash parce que, au fond, vous n'allez pas voir ce que j'écris. Le mot leg. Un leg, vous savez que ça s'écrit G-S. En fait, on pense que ça vient du verbe léguer. Et voilà pourquoi on accepte de garder ce G et puis le S, on ne sait pas trop. Mais en fait, ça vient, justement, le S va se justifier, ça vient du verbe laisser. Et le G n'a donc pas de pertinence. Mais comme on a confondu les origines possibles, eh bien, voilà, le G est apparu. C'est pareil pour le poids, P-O-I-D-S. Le D n'a pas de raison d'être a priori, parce que ça vient du mot latin pensum, un pensum, hein, qui veut dire ce qui pèse ou bien ce qui est pesé. Et d'ailleurs, il a été orthographié poids, P-O-I-S, jusqu'au 14e siècle, hein, et c'est à la Renaissance, enfin, vers le 15e siècle, avant la Renaissance française, qu'une réflexion est survenue, parce qu'on a pensé que ça venait du latin pondus, qui a donné pondéré, et qui voulait dire aussi le poids. En fait, en latin, le pensum, c'était au départ le poids de laine que les esclaves devaient filer par jour. Et c'est devenu un pensum parce que c'était un travail harassant et beaucoup trop lourd. C'est le cas de le dire. Et pondus, c'était le poids de manière plus générale. Voilà. Donc, on a cru que ce mot venait de celui-ci et on a réintroduit le dé. Mais voyez, l'étymologie est biaisée. Alors, un dernier exemple que j'ai appelé étymologie et mot exotique. En fait, je n'en ai pris qu'un mot exotique. Beaucoup d'encre a coulé à propos du mot nénuphar, dont on a maintes fois proposé une graphie simple avec un F plutôt que PH. Et en fait, ce mot n'est pas d'origine grecque, donc le pH n'a aucune raison d'être. Il vient de Perse, et en Perse, le nélufar avec un L veut dire le lotus bleu. Voilà. Donc, le F devrait s'imposer, et il s'est écrit avec un F jusqu'au début du XXe siècle. Si vous êtes des amateurs de livres anciens, vous pouvez peut-être avoir chez vous la recherche de Proust dans les premières éditions, où les nymphéas de la Vivonne ou les nénuphars sont écrits avec un F. Voilà. Mais voilà, pour que le mot fasse vraiment exotique, puisque la fleur était persane, eh bien, on a compliqué la donne. Alors, Henriette Walter n'est pas une méchante. Voilà ce qu'elle dit pour dédouaner les partisans de la complexité. Ces réactions passionnées qui ont pris des allures de guerre de religion sur fond de dialogue de sourds manifestent au fond un grand amour de la langue française, mais elles montrent en même temps une grande ignorance. Il ne faudrait pas confondre l'orthographe et la langue. L'orthographe n'a né que l'habit et parfois l'ornement. Voilà, ça me paraît très juste. Voilà pour cette première partie, les approches. Alors maintenant, on va partir un petit peu dans l'histoire de l'orthographe qui est au fil d'exigences de toutes sortes, aussi bien linguistiques que politiques, à compliquer les choses. Donc nous passons au grand B, hein, voilà, un petit historique. Alors pour cela, je me suis inspirée du livre de Nina Katash, hein, qui est une spécialiste de l'orthographe. Et elle commence en précisant que l'orthographe française a une spécificité. Ça n'est pas la seule, mais vous allez voir laquelle, qui complique la donne tout de suite. Tout à l'heure, j'évoquais le poids, mais hors contexte et simplement prononcé oralement, vous ne pouvez pas savoir de quel poids je vous parle. Si c'est DS, si c'est POIS, et si je ne mets pas l'article, ça peut être POIX. Pareil pour le SEAU, le SEAU, SEAU, SCEAU, SOT, etc. Donc l'auditeur n'est pas en mesure de proposer une écriture adéquate s'il n'a pas d'indice. C'est pour cela que notre écriture est dite à deux niveaux. On doit tenir compte du son, mais tout aussi bien du sens. Voilà. Vous allez dire, mais c'est le cas de toutes les langues. Eh bien, apparemment, non. Nina Katash parle d'écriture alphabétique. Par exemple, elle prend comme exemple le turc actuel, le serbo-croate, chez qui les écritures alphabétiques sont si claires que la correspondance entre le son et le signe, une fois connue, permet pratiquement de se délivrer de toute hésitation. Voilà. un son ne peut renvoyer qu'à un signe, ce qui n'est pas le cas en français. D'où notre orthographe à deux niveaux. Notre orthographe n'est donc pas alphabétique, ça on l'avait remarqué. Alors, ce qui va compliquer aussi les choses... Attendez, je me suis trompée. On n'est pas déjà au grand 2. C'est la crise du moyen français. Je reste dans la spécificité de l'orthographe française. Ce qu'on appelle, alors, au départ, l'écriture était romane, du 5e au 13e siècle, c'est-à-dire le grand Moyen-Âge. Et elle était proche de celle de l'italien et de l'espagnol. Et cette écriture romane que nous partagions avec les Italiens et les Espagnols était fondée, évidemment, sur le latin. Une rupture brutale s'opère au XIVe siècle avec les écritures voisines, celles des Espagnols et des Italiens. Et cette rupture se fait au profit d'une écriture qui est dite de type idéographique. Vous savez ce que c'est qu'un idéogramme ? C'est par exemple les hiéroglyphes, un dessin qui va représenter un son. Donc, notre écriture romane française va s'éloigner de l'écriture phonétique et devenir idéographique. Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi cela se produit-il ? Eh bien, à partir du XIVe siècle, les techniques et même l'esthétique se développent. Des nouveaux clercs apparaissent, séculiers, de plus en plus nombreux. Les écritures individuelles se multiplient. Et il va y avoir, à cause de cette multiplication de l'usage de l'écriture, qui n'est plus réservé aux faiseurs de parchemin, il va y avoir un besoin de rapidité. C'est une évolution universelle. Dès qu'un outil apparaît, il va se populariser et on va vouloir l'améliorer pour qu'il soit efficace de manière de plus en plus immédiate. Donc, pour écrire de manière rapide et lisible, eh bien, les scripteurs vont utiliser des signes qui ressembleront à des dessins, des boucles, des jambages, des repères qui permettront de distinguer des tracés trop semblables. Voilà, donc, ils inventent en fait des petits dessins, des codes, des signes, des marqueurs. Oui, ça va venir, vous allez voir. Comme ça, moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je comprends rien, ça, je vais pas leur dire. Voilà, puis après, je me suis... Voilà, donc, vous êtes d'accord avec le principe qui est l'ancêtre de la sténo. Voilà. Eh bien, si vous avez vu des signes de sténo avec des tire-bouchons, des traits, des triangles, voilà, ils utilisaient des signes semblables pour faire la distinction. Ça n'est pas le cas, mais imaginez qu'ils aient eu à écrire... Il faudrait qu'on trouve deux mots semblables. Le lapin et le sapin. Alors, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, non, et encore, ça ne va pas. Mais vous allez voir, les exemples arrivent après. Que là, je sens que c'est compliqué. Alors, donc, ce sont toutes ces boucles, tous ces jambages qui vont compliquer les choses. Et nous allons voir comment. Et donc, je passe à une deuxième partie que j'ai intitulée, justement, « Orthographe, société et littérature ».
S'il vous plaît, il n'y aurait pas aussi l'utilisation d'abréviations des sous-mots ?
Absolument, je parlais de la sténo, tout à fait, voilà. Alors, l'abréviation, qu'on trouve encore dans les inscriptions latines, ça compliquait encore les choses.
Bien sûr. Société et, est-ce que je vous ai dit, littérature ?
Ben, nous, on a ça, qui doit venir de, hein, pour le « et ». Et puis, je crois que le « arrobase » a une origine aussi bien plus ancienne que l'électronique. Alors, je vais commencer, pour expliquer tout cela, par des variantes remarquables. L'étymologie va être sacrifiée à la calligraphie. Je vous ai dit qu'il y avait le principe de rapidité, de lisibilité, mais en plus, il fallait que ce soit esthétique, ce qu'on écrivait. N'oubliez pas qu'il y a l'écriture gothique aussi, qui va s'implanter après l'écriture romane. Et Dieu sait si le gothique est esthétique. Alors, donc, elle va être sacrifiée, l'étymologie, aux nécessités de la calligraphie, et on prend l'habitude de déchiffrer chaque lettre d'après sa position dans le mot. Donc, déchiffrer chaque lettre d'après sa position dans le mot. Par exemple, le S, le cas du S, eh bien, il va être rond en finale, comme le nôtre, hein, même s'il le faisait sûrement plus comme un escargot, mais en début et en position médiane de mot, on avait ceci. Vous avez tous vu dans des parchemins ces signes que l'on prend spontanément pour des F, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il s'agit de la sifflante. C'est pareil pour le V à l'initiale, qui va noter indifféremment le U ou le V. Un autre cas, le J, qui pour nous est un son, un phonème spécifique, suivant la position dans le mot, il va désigner un I, un Y ou un J actuel. Alors, comment voulez-vous que l'étymologie se retrouve là-dedans, hein ? Il fallait être très savant pour arriver à déchiffrer tout cela. Les scripteurs décident aussi d'adopter une orthographe de distinction. Ça va vous paraître plus clair et vous allez faire des drôles de découvertes. On va faire fi de l'étymologie latine pour faire comprendre de quel phonème il s'agit, s'il s'agit d'une consonne ou d'une voyelle. Je vous donne un exemple autour de ce phonème U quand il est voyelle et V ou E quand il est consonne. En latin, je vous l'ai dit, il n'y a que ce phonème-là qui est écrit. Voilà, on n'a que ça comme écriture. Et en fonction de la position dans le mot, le latin sait spontanément si c'est U ou si c'est E, si c'est voyelle ou consonne. Mais ça paraissait compliqué au scripteur. Alors, voyons des exemples avec quelques mots latins. Par exemple, le mot qui désigne l'huile. L'huile, ça vient de oleum, oleum. Prenons aussi le chiffre 8 qui vient de octo. Prenons aussi l'huître, vous me voyez venir, qui vient de ostreum. Il n'y a absolument aucune raison pour que ce H soit là. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, huile, huit, huître s'écrivait sans H. Mais les scripteurs ont ajouté le H à l'initiale pour bien signaler que le U était voyelle. Parce que sinon, on pouvait prononcer ville, vite, vitre. Voilà. Donc le H était un marqueur, non pas de sens ni d'étymologie, mais simplement un moyen qu'ils estimaient pratique pour indiquer que le phonème suivant était voyelle. Alors, j'ai commencé par le cas le plus simple, parce que vous allez voir à quel point il pouvait compliquer les choses. Je vais vous mettre au tableau d'autres termes que l'on a trouvés dans les archives et vous allez me dire si vous savez de quoi il s'agit. Voilà, si vous lisez, j'allais dire spontanément, vous avez apuril, débuard, et bréfu. Bon. En fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit du mois d'avril, du devoir et d'une brève. Mais comme quand on l'écrivait comme ça, il y avait hésitation sur l'identité de ce phonème. Est-ce que c'est une consonne ou est-ce que c'est une voyelle? Est-ce qu'il faut dire breu ou brève? Devoir ou devoir, etc. Les scripteurs ont ajouté arbitrairement ces sons-là pour bien indiquer que le... comment dirais-je? Que le phonème suivant était une consonne. C'est un compliqué, hein, c'est extrêmement compliqué. Donc ça n'a rien à voir évidemment avec l'étymologie. Ça veut dire attention, ça, c'est consonantique. C'est un procédé visuel d'une extrême complication et certains sont restés par suite de diverses circonstances. Vous allez dire, mais ça n'était pas viable. Alors, il y a deux arguments imparables. Le premier, c'est qu'il ne fallait pas toucher à la langue latine. parce que c'était la langue d'église. Voilà. On ne pouvait pas simplifier la matrice de la religion. C'est une expression un peu sommaire, mais c'était ça, le concept. Voilà, on ne pouvait pas toucher à l'alphabet initial. Alors, eh bien, on composait avec cela. L'autre raison, c'est que même si je vous ai dit qu'au XIVe siècle, l'écriture commence à se multiplier, eh bien, ça reste quand même, en immense majorité, le domaine d'une élite. La majorité, l'immense majorité des usagers de la langue française n'ont que faire de l'orthographe parce qu'ils n'écrivent jamais. Voilà, c'est tout simplement cela, la raison. Hein. Comme a dit Varron, le peuple n'est pas le maître de l'écriture comme de la parole. Voilà, pour vous montrer les complications que l'orthographe a prise jusqu'à compliquer des étymologies beaucoup plus simples.
Quand tu as commencé sur orthographe, société, littérature, tu as parlé d'une nouveauté technique, m'a-t-il semblé, mais ça j'ai mal compris, parce qu'après tu as dit qu'il y avait de nouvelles couches qui arrivaient dans les scripteurs,
oui.
Mais il y avait quelque chose juste avant, c'est ça que j'ai pas compris ce que c'était, où je me suis égaré.
J'ai dit que les techniques, la linguistique et l'esthétique posent de nouvelles exigences et que la culture devient écrite et que les scripteurs, le nombre de gens qui écrivent, se multiplie.
Voilà. C'était uniquement du côté des œuvres.
Voilà.
Sociétal.
Alors, nous allons voir maintenant, puisque j'ai parlé de société et de littérature, le lien entre la langue et la nation. Alors, le XIVe siècle, donc les années 1500, attendez, non, je ne sais jamais. 1300. Me compter à l'envers, je n'y arrive pas. Voit en France un effort énorme d'unification de la langue, tout simplement parce que un embryon de centralisation se fait sentir et que Paris commence à devenir prédominant. Donc, phénomène de centralisation va impliquer que tous les éléments possibles vont subir cette évolution. Et à cette époque-là, des humanistes et des grands traducteurs vont développer et enrichir la langue dite vulgaire, en parallèle avec le latin. Le latin demeure, hein, le bilinguiste culturel est très fort en France, mais on commence à enrichir la langue vulgaire parce que on commence à s'y intéresser comme langue à part entière et pas simplement comme un patois pour le bas peuple. Et au XVe siècle encore, ce bilinguisme demeure, alors que chez nos voisins italiens, où le Quattrocento est le siècle de la Renaissance, les choses vont changer. Et pourquoi ? Parce que les Italiens ont une littérature reconnue. La Divine Comédie de Dante a fait beaucoup, non seulement pour nos esprits, pour la culture, pour la littérature, pour la philosophie, mais elle a servi de modèle, elle a été une matrice de la langue italienne. Ce qui fait que la langue italienne a subi sur le plan graphique beaucoup moins de modifications que notre langue qui n'avait pas encore une référence littéraire assez constituée. Voilà, ça paraît étrange, mais ça se conçoit. Alors, vous vous doutez du phénomène qui va entraîner le grand bouleversement de l'écriture, de l'orthographe, de la graphie, c'est évidemment l'imprimerie. Alors, à propos de la Divine Comédie, les gens du Sud-Ouest adorent répéter que Dante a failli écrire sa Divine Comédie en occitan. Et voilà, ça ne s'est pas fait. Et nous avons été colonisés. Voilà, nous allons faire une petite pause. Et puis, nous irons vers l'orthographe d'État. Là, on va sauter les siècles. Voilà.